le magazine des Nations Unies.
Bonjour et surtout agréable condition d'écoute des programmes de Radio Capi qui vous propose le magazine des Nations Unies. Donc voici les principaux titres. Au total, 30 détenus de la prison centrale de Goma, dont deux femmes, ont bénéficié mercredi d'une libération conditionnelle. C'est sur base d'un arrêté ministériel signé fin février par la ministre de la Justice. Dans la Tchopo, l'UNICEF a remis la semaine dernière aux autorités locales des ouvrages hygiéniques construits en faveur des déplacés du conflit Mbole-Lingola installé autour de la paroisse Saint-Marc de Lubunga. C'est dans le cadre de la réponse d'urgence en eau, hygiène, assainissement dans cette communauté déchirée par ce conflit. Le représentant pays de Médecins Sans Frontières, Emmanuel Lampard, est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes au Nord Kivu. Au total, 30 détenus de la prison centrale de Goma, parmi eux deux femmes, ont bénéficié mercredi d'une libération conditionnelle sur base d'un arrêté ministériel signé à la fin du mois de février par la ministre de la Justice. La cérémonie de leur relaxation s'est déroulée en présence des responsables du bureau provincial de la CNDH et de la MONUSCO à travers sa section d'appui à la justice. Le compte-rendu est de Gabriel Ouaménia.
Visage radieux et vêtu encore en tenue pénitentiaire, tous les yeux et les regards rivés sur le directeur de la prison qui annonçait à travers la lecture d'un arrêté ministériel leur relaxation. Séance tenante, ce détenu condamné à 4 ans de prison ne cache pas sa satisfaction après sa libération. Il promet de ne plus retomber dans les actes délictueux.
Oui, je suis vraiment très content puisque j'ai été condamné 4 ans dans la prison. Alors, je suis très content de recouvrer ma liberté. Je suis maintenant libre, vraiment, que Dieu soit béni.
De son côté, le directeur de la prison leur a dit qu'il reste toujours et à tout instant justiciable devant toutes les juridictions du pays une fois qu'ils commettent des actes répréhensibles. Serge Kiero.
Au fait, au total, nous avons libéré 30 détenus, parmi lesquels deux femmes, qui répondaient donc aux critères fixés par le code pénal, fixés par la loi portant principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire.
Notons que cette activité de routine contribue également au désengorgement des maisons carcérales à travers les pays, a indiqué le directeur de la prison Mounzenze, qui compte actuellement plus de 3000 détenus. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Le peuple du monde a célébré le mardi 5 mars la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération. Objectif, promouvoir une plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension des questions de désarmement auprès du public, notamment des jeunes. À cette occasion, Radio Okapi s'est intéressé au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Un programme mis en œuvre par le gouvernement et la MONUSCO dont la démobilisation des combattants et des groupes armés à Beni, Butembo et Lubero, région du Nord Kivu, où des jeunes sont souvent recrutés par les groupes armés. Martial Papi Moukeba nous en parle.
Avec une dizaine de groupes armés locaux, la région de Beni, Butembo et Lubero compte à ces jours plusieurs combattants armés. Les PDDRCS s'emploient à leur sensibilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire pour lutter contre l'insécurité dans la région. Eric Katembo Masinda est chef d'antenne du PDDRCS pour Butembo et Lubero, il explique.
La sensibilisation est accrue à territoire de Lubero. Aujourd'hui, le site de Kassando compte plus de 200 ex-combattants venus avec armes et munitions de guerre et nous diminuons la circulation des armes et munitions de guerre.
Un travail qui bénéficie régulièrement de l'appui de la MONUSCO. Comme l'explique Jean-Toby Okala, responsable de l'information publique de la mission de l'ONU à Beni.
Nous organisons des formations au profit des agents de la CNCALPC sur le traçage et le marquage d'une arme. Nous aidons à sécuriser ces armes par la construction d'armureries. Nous faisons des sensibilisations au danger des armes en faisant passer une idée simple qui est que la bonne place pour une arme, ce n'est pas dans le dos du combattant, mais plutôt dans une armée.
Depuis le début du mois, des formations et sensibilisation de ces genres ont été organisées par la MONUSCO à Beni. Fini, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Qu'à vers le sud Kivu, les femmes de Bukavu ont désormais un cadre approprié pour leurs activités. Il s'agit de l'auditorium de la femme de la ville de Bukavu. C'est l'une des pièces de la maison de la femme, mise en œuvre par la GIZ, la coopération technique allemande, avec des fonds de la coopération suisse, cela à travers le projet PASS, programme d'appui à la santé. C'est dans son volet santé et genre que cet auditorium a été construit et remis officiellement au mercredi 6 mars 2024. Rachel Kessimbangu, reportage.
Situé à La Botte, dans la commune d'Ibanda, ce bâtiment, c'est donc une salle de réunion des rencontres des femmes et associations des femmes avec une capacité d'accueillir 300 personnes. Cet espace permettra aux femmes de discuter de leurs droits, comme l'affirme Jacqueline Nguingele, chef de la division provinciale du genre.
C'est un lieu où les femmes vont se réunir pour discuter, échanger, partager toutes les informations sur leurs droits, sur leur vie au quotidien. Au fait, c'est depuis 2010, lors de la commémoration de la Marche mondiale de la femme, que la province du Sud Kivu avait désaffecté cette parcelle. Et c'est l'ancienne ministre Marie-Ange Lukiana qui avait posé la première pierre.
Cet espace représente une opportunité car les femmes ne vont plus chercher où se réunir. Thérèse Mema, directrice du centre Olamé de Bukavu.
Pour nous, c'est une opportunité parce que désormais, les femmes ne vont plus chercher où se rencontrer. Parce que c'était un besoin, on devait avoir une maison de la femme pour se rencontrer, non seulement pour discuter, mais aussi pour partager l'expérience, mais aussi pour apprendre.
Le gouverneur intérimaire qui a remis cet édifice appelle les femmes à gérer ce bâtiment et tous les matériels en bon responsable. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Clôturons cette page d'actualité. Dans la province de la Tchopo, l'UNICEF a apporté la semaine dernière une réponse d'urgence en eau, hygiène et assainissement en faveur des déplacés du conflit Mbole-Lingola qui sont installés aux alentours de la paroisse Sainte-Marthe de Lubunga. Cet organisme onusien a procédé à sa remise aux autorités locales à travers la division provinciale des affaires humanitaires. Ces ouvrages sont construits par le programme de promotion des soins de santé primaire PP. SSP. La cérémonie officielle a eu pour cadre la concession de l'hôpital de la SNCC à la rive gauche du fleuve Congo. C'était en présence des autorités locales ainsi que des bénéficiaires. Reportage Jacques Mokonkole.
Les ouvrages remis ce jour ont coûté plus de 50 000 dollars américains. Le PPSSP a donc réhabilité notamment un réservoir d'eau et son circuit d'approvisionnement. Il a également construit des blocs de latrines, a installé 4 stations de lavage de mains et a creusé 2 trous à ordure. Pour le chef de bureau intérimaire de l'UNICEF Kisangani, Oline Baganda, cette dotation est une contribution de l'UNICEF aux énormes besoins des déplacés.
Notre modeste contribution ne pourra certes pas répondre aux énormes besoins des familles déplacées, des élèves déplacés, des enseignants ainsi que de la communauté d'accueil. Cependant, nous espérons que notre modeste contribution pourra contribuer à l'amélioration à l'accès à l'eau potable, à l'hygiène, à l'assainissement.
Outre les élèves du complexe scolaire Lualaba et la communauté locale, plus de 1180 ménages vivant dans ce site sont bénéficiaires de ces ouvrages, a révélé le chef de division des affaires humanitaires. Antoine Lokangila leur recommande un usage responsable.
L'ouvrage étant remis, pour ne pas vous demander une gestion orthodoxe, mais nous en espérons un usage à bon père de la famille pour en assurer la pérennisation.
Tout en remerciant l'UNICEF pour ses ouvrages, les déplacés ont posé d'autres problèmes que ce dernier a promis de transmettre à sa hiérarchie. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien l'ingénieur Léonard Kambalé, chef d'antenne du programme de promotion des soins de santé primaire PPSSP. Il explique comment dans la province de la Tchopo, l'UNICEF a apporté la semaine dernière une réponse d'urgence en eau, hygiène et assainissement en faveur des déplacés du conflit Mbole-Lingola qui sont installés aux alentours de la paroisse Sainte-Marthe de Lubunga. Cette agence onusienne a financé des ouvrages construits par le programme de promotion des soins de santé primaire PPSSP. Quels sont ces ouvrages? Comment fonctionne-t-il et quel en est le coût? L'ingénieur Léonard Kambalé, chef d'antenne de PPSSP, explique dans cet entretien avec Jacques Mokonkole.
Léonard Kambalé, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous décrire les ouvrages que vous avez réalisés au profit des déplacés ainsi que la communauté de Lubunga?
Avec l'effort de l'UNICEF, nous avons réalisé des ouvrages dans la composante eau, hygiène, assainissement. Donc il y a des ouvrages qui sont spécifiques pour la composante eau, d'autres qui le sont pour la composante assainissement et d'autres pour la composante hygiène. Pour la composante eau, nous avons aménagé, nous avons construit un forage fonctionnant avec le système photovoltaïque. Donc nous avons la pompe, nous avons le panneau solaire et nous avons une cabine de commande pour ça. Alors, quand la pompe approvisionne le tank, nous avons un tank de 20 mètres cubes qui est approvisionné par pompe solaire à partir du forage. Alors, la pompe amène l'eau à hauteur et à partir de là, le réservoir plein, l'eau est redistribuée.
Redistribuée où exactement?
Voilà, donc nous redistribuons aux bénéficiaires.
Qui sont ces bénéficiaires?
Les bénéficiaires de cette eau, il y en a de trois sortes, même quatre. Premièrement, sont les déplacés du site Sainte-Marthe. Il y a une borne fontaine qui est au site et l'eau quitte le réservoir qui est ici au niveau de SNCC vers le site Sainte-Marthe. Le deuxième bénéficiaire sont les écoliers de l'école primaire Loualaba. Là, il y a aussi une autre borne fontaine. Troisième bénéficiaire, c'est la communauté. Il y a une autre borne fontaine pour ça. Et quatrième bénéficiaire, c'est l'hôpital même de SNCC qui a aussi une borne fontaine. Et l'eau arrive là-bas par gravitation, moyennant une mini-addiction que nous avons mise à place pour la cause.
Là, vous avez parlé de l'eau, de la distribution de l'eau aux bénéficiaires. Alors, par rapport à l'assainissement, qu'est-ce qui a été fait?
Par rapport à l'aspect assainissement, là, nous sommes intervenus spécialement au niveau du site Sainte-Marthe. Nous avons construit 8 portes de latrines, dont 4 pour femmes et 4 pour hommes. Et nous avons aussi aménagé 2 trous à ordures pour la gestion de déchets ménagers. Je vais ajouter qu'il y a aussi les ouvrages de composantes hygiène. Et là, ce sont des douches, 8 portes aussi, 4 pour hommes et 4 pour femmes. Et dans la même composante hygiène, il y a aussi les dispositifs de lavage des mains qui ont été donnés aux déplacés.
En combien de temps vous avez réalisé ces ouvrages?
Les ouvrages, nous les avons réalisés en un mois. Comme c'est un projet d'urgence, il y a seulement un mois qui nous a été donné pour ça, et c'est ce qui a été fait.
Ah, si c'est pas un secret, on peut en savoir le coût?
Oui, le coût de ce projet était de ces 4 000 dollars.
Maintenant à que ces ouvrages ont été réalisés, il y a un problème qui se pose, c'est la maintenance. Comment cela va-t-il se faire?
Bon, justement, pour l'aspect maintenance et pour assurer la pérennisation des 10 ouvrages, nous avons initié un comité de gestion de ces ouvrages. Un comité conjoint constitué d'une part avec les éléments de l'hôpital, d'autre part l'école et les sites, les déplacés eux-mêmes et le chef de quartier Colouézi. Donc, ils vont constituer un groupe conjoint pour la gestion des ouvrages. Et pour se rassurer que des éventuelles réparations pourront être possibles, le puisage de l'eau pourra être conditionné par un paiement. Et à puisant, on va fixer un prix, c'est un prix conventionnel qui sera fixé pour chaque puisage et un montant pourra être capitalisé pour la cause et en cas d'éventuelle réparation, on pourra recourir à cette caisse-là.
Ingénieur Léonard Kambalé, pouvez-vous rassurer les bénéficiaires de la potabilité de cette eau que vous venez de mettre à leur disposition?
Ok, merci beaucoup pour la question qui est intéressante. Je vais vous rassurer que l'eau est potable et sur quelle base je vais le faire. Avant d'autoriser la consommation de cette eau, nous avons procédé à une analyse bactériologique au laboratoire des facultés des sciences. La faculté des sciences a analysé les différents paramètres de l'eau et à conclusion, ils ont dit que l'eau est bonne pour la consommation. Et donc, c'est une eau potable certifiée par le laboratoire de faculté des sciences de l'UNIKIS.
Ingénieur, merci.
C'est moi qui vous remercie.
La République démocratique du Congo compte au total quelque 7 millions de déplacés, principalement dans sa partie est, selon l'ONU. Nous sommes confrontés à une catastrophe humanitaire de grande ampleur, constatons le communiqué dans un communiqué Peter Moussoko, représentant du PAM en RDC. Les enfants et leurs familles sont pris en étau dans des tirs croisés meurtriers, déplorent les agences. Le mouvement des populations fuyant le combat entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 s'est poursuivi jeudi dernier dans le Nord Kivu, où la rébellion continue de gagner du terrain selon les habitants. L'Organisation des Nations Unies estime que plus de 100 000 personnes ont fui leurs villages respectifs. Equity BCDC, le programme alimentaire mondial PAM en RDC, ont mis conjointement en œuvre le projet promotion de la sécurité alimentaire durable dans le pays. Il vise à stimuler le développement d'un secteur agro-industriel durable pour contribuer à la diversification économique, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'emploi ainsi qu'à l'amélioration des moyens de subsistance en RDC. Alors que ce projet est destiné à être mis en œuvre au niveau national, cette phase pilote est menée dans deux provinces, le Congo central et le Kasaï oriental.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité le représentant pays de Médecins Sans Frontières en RDC. Emmanuel Lampard a visité récemment le Nord Kivu. Il parle des conditions de vie précaires des déplacés de Goma en ce qui concerne l'eau, l'hygiène, les abris, la nourriture et d'autres actions médicales ainsi qu'humanitaires. Outre Goma, il s'est rendu aussi à Mwenga et Lushagala. Il témoigne sur la présence des hommes armés près des camps de ces déplacés civils. Il fait appel au devoir de présence du gouvernement et des humanitaires pour des réponses à la hauteur des besoins. Emmanuel Lampard s'entretient avec Jeff Opela.
Bonjour Emmanuel Lampard.
Bonjour Jeff, bonjour écouteurs de Radio Ikap.
Vous revenez du Nord Kivu, vous avez parcouru la ville de Goma. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la présence armée dans les camps et autour des camps? Et quel danger cela représente pour la population des déplacés civils qui sont dans les camps?
Vous le savez, Médecins Sans Frontières, c'est non seulement l'action médico-humanitaire, c'est aussi le témoignage, c'est aussi la prise de parole, et notamment pour ceux qui n'ont peut-être pas de voix. Alors certes, les dernières semaines, ensemble avec le CICR, ensemble avec OCHA et d'autres, on s'est mobilisés pour demander que notamment les lignes de défense ne soient pas aux abords des camps, au sein des plus vulnérables, avec tout ce que ça amène avec en termes d'insécurité. Même si c'est juste une perception, la guerre se joue désormais aux abords des camps. Mais à cela s'ajoute maintenant que vous avez autour des camps et des sites informels de Lushagala Shabindu, les camps de Wazalendo en uniformes divers, armés, vus, j'en témoigne. Ces camps sont à proximité. Et non seulement ces camps sont à proximité, aujourd'hui, il y a de plus en plus une présence volontaire dans les camps. Et donc nous voyons clairement une tendance, et ça c'est vraiment très récent, hein, sur les dernières 2-3 semaines, nous voyons davantage de harcèlement, violence faite à la femme, atrocité. Quoi, vous êtes au courant, il y a eu une femme enceinte tuée par balle. Et ce n'est qu'un exemple, nos équipes témoignent davantage d'un climat d'insécurité.
C'est-à-dire lorsqu'on se balade, on peut voir dans les camps des hommes armés, et on peut voir les lignes de défense autour des camps?
Tout à fait. Je crois les dernières semaines, aussi Médecins Sans Frontières s'est mobilisé parce que les bombardements, les lignes de défense aussi, les tirs plutôt offensifs, défensifs, se positionnaient aux abords des camps. Ça a un impact en termes de déplacés pour nos équipes, pour les patients qui sont en train de consulter, hospitalisés dans les structures. C'est assez énorme. Imaginez-vous une femme enceinte dans la maternité, avec cela, à quelques mètres.
Peut-on savoir dans quelles conditions le MSF travaille à cette situation qualifiée de catastrophique au niveau des Nord Kivu?
On a essayé de vous décrire la précarité des conditions de vie, que nous avons même qualifiées de survie, des déplacés, davantage plus grands en nombre. Nos équipes se démènent au mieux pour offrir notamment les soins, les besoins essentiels en termes de eau et hygiène, parfois font des distributions ponctuelles comme cette semaine vers Lushagala et Shabindu. Mais c'est clair que cette insécurité grandissante aux abords et dans le camp fait en sorte que les heures de présence, notamment de l'ensemble des équipes, est davantage contraignée. Et bien évidemment, l'impact des conditions, même si on essaye de se mobiliser au mieux, à la longue, ben ça vous déchire. Les choix que nos équipes doivent constamment faire, aussi pour s'adapter à ce contexte très évolutif, très dynamique, ça pèse énormément sur les physiques et sur les états mentaux. Ça, c'est nos équipes. Imaginons-nous alors les civils vulnérables déplacés, qui parfois se sont déplacés pour la deuxième, troisième fois.
Après ce que vous avez vécu, quel est l'appel des MSF?
Je crois pour l'ensemble des acteurs, chacun dans leur rôle et avec leur responsabilité, les deux messages clés, c'est il faut être présent et il faut mobiliser cette réponse. Oui, en priorisant. Oui, en faisant des choix. Oui, on peut en appeler à plus de moyens. Mais je crois clairement aujourd'hui, il faut avoir comme objectif que aussi les nouvelles vagues puissent bénéficier des standards minimums en termes de réponse lors d'un déplacement interne. Deux, c'est un clair appel, un langage clair et ferme pour la protection des civils plus vulnérables déplacés.
Monsieur Emmanuel Lampard, merci.
Nous sommes en Ituri. Un militaire FARDC a été tué et deux miliciens ont été abattus lors d'un accrochage le week-end dernier entre les miliciens Codeco et les forces loyalistes Azuda dans le territoire de Djougou. Des sources sur place rapportent que ces assaillants étaient venus attaquer le marché de Zouda situé à 24 km de Djougou centre. Des casques bleus déployés dans la zone pour y effectuer des patrouilles ont à leur tour essuyé des tirs de ces miliciens. D'autres renforts des soldats de la MONUSCO ont été dépêchés en vue de sécuriser les bases de la mission où se trouvent des milliers de personnes déplacées. Jean-Claude Lokidile nous fait le point.
Aux environs de 13h30, la base de la MONUSCO, dont la zone reçoit une première alerte de la présence des miliciens au marché de Zouda, où des tirs d'armes à feu étaient entendus. Aussitôt, une patrouille des casquets bleus se dirige vers ce village. Chemin faisant, les soldats de la paix se heurtent à une présence des miliciens qui ouvrent le feu contre eux. Les militaires de la MONUSCO ripostent avant de recevoir du renfort pour faire face à l'ennemi. Pendant ce temps, les assaillants avaient déjà tué un soldat des FADC apprenant des sources concordantes. Plus d'une heure après, une autre patrouille de la MONUSCO qui se dirige cette fois vers le village Okapi tombe dans une nouvelle embuscade de ces mêmes rebelles. L'échange de tirs entre les deux parties va durer près d'une heure. Au moins deux éléments de la Codeco auraient été tués au cours des affrontements. Bien que le milice soit retiré de la zone, la MONUSCO a continué à effectuer des patrouilles de domination pour s'assurer que toutes ses bases sont sécurisées et restées en état d'alerte. Dans le but de prévenir d'éventuelles attaques de la Codeco contre les sites de personnes déplacées pendant la nuit. Bounia, Jean-Claude Lequi, Dile, Radio Capi.
Radio Capi.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Et quel serait le sort des milliers de déplacés dont la survie dépend dans la plupart des cas des bases de la MONUSCO après son départ? Est-ce qu'il y a une stratégie, il y a une suggestion ou quelque chose qui est prévu pour leur protection? Madame Bintou Keïta a répondu à cette interrogation. C'était lors d'une conférence de presse conjointe entre la chef de la MONUSCO et le gouvernement congolais à Kinshasa. Suivez.
La situation des personnes déplacées internes. Nous en avons presque maintenant 7 millions de personnes déplacées internes, dont si on regarde l'Est, c'est à peu près 5,5 si je ne me trompe. Hein, je regarde sous contrôle de mes adjoints. Et là, je crois que si le lieu, dans la volonté des bonnes résolutions de début d'année, de demander à ce que tous les groupes armés, mais vraiment tous les groupes armés, arrêtent et déposent les armes. Il y a le programme de désarmement, démobilisation, réintégration à base communautaire et stabilisation qui existe. Et je pense que l'accélération de la mise en œuvre aussi de ce programme, en dehors du théâtre qui est celui du Nord Kivu, sera tout aussi important pour améliorer les conditions, pas seulement en termes de prise en charge humanitaire, mais de faire en sorte que l'aspiration de ces personnes déplacées, c'est de pouvoir retourner chez eux, chez elles. Et ça, ça ne peut se faire que s'il y a la paix.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Une date à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence le 15 mars, c'est la journée internationale de l'islamophobie. Et C'est la fin de cette émission à recruter sur www.radiocapi.net. Merci de votre attention. Merci à Mimi Kindou pour la supervision technique. Babel Pongo Massimango au micro. Jeff Opela était lui à la coordination, réalisation, la production. Merci de continuer à suivre la fréquence de la paix. Quant à l'équipe du magazine des Nations Unies, elle vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain. Portez-vous bien.